Très heureux d'être là avec vous sur Présence en direct de Cahors. Vous nous écoutez sur le 92.5. Je regarde par la fenêtre et oui, il fait pas très beau dans deux minutes. Je vous dis tout sur la météo dans notre partie d'Occitanie. Pour l'heure, vos émissions et l'interview du jour avec Isabelle Honnel. Elle sera avec Anne Goulet, directrice des archives départementales, pour un concours photo. C'est dans 5 minutes. Tout savoir sur l'agenda, c'est avec Emmanuel Pellat dans Église Actualité et c'est dans 20 minutes. Dans la deuxième partie de l'heure, nous allons faire le tour des dieux sans bouger de chez vous et nous partons à Rodez où vous nous écoutez sur le 103.9. Puis en fin d'heure, votre chronique comme tous les lundis sur la santé. Mais avant tout ça, les titres avec Luc Vidal-Giraud en ce lundi 21 septembre.
De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur ce matin dans le cadre de la crise sanitaire. La fermeture des écoles maternelles et primaires en cas de cas positif au coronavirus ne sera plus systématique. En dessous de 3 cas avérés, les élèves ou enseignants masqués qui ont été en contact avec un cas avéré ne seront plus tenus de s'isoler. Dans le Lot, la préfecture, en étroite collaboration avec l'ARS et les chefs d'établissement, annoncent que 3 élèves internes et un surveillant de l'internat du lycée Monerville de Cahors, ainsi qu'un élève externe, ont été testés positifs. En conséquence et par mesure de précaution, le préfet a décidé la suspension temporaire de l'accueil de l'internat pour 7 jours. À Toulouse, le préfet de Haute-Garonne a pris de nouvelles mesures. Elle a décidé de prolonger l'obligation du port du masque d'un mois, soit jusqu'au 21 octobre. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits dans les parcs et jardins et les soirées dansantes sont également interdites dans les restaurants et les bars et les clients sont priés de consommer assis. Il se confirme que cet été 2020 a bien profité à la montagne. Malgré un contexte sanitaire difficile et une baisse très importante du tourisme étranger, la fréquentation des Pyrénées a progressé de près de 4 points par rapport à l'été dernier. Les visiteurs ont, semble-t-il, privilégié les estives aérées aux plages surfréquentées. Toulouse commémore aujourd'hui le 19e anniversaire de la pire catastrophe industrielle de son histoire. Le 21 septembre 2001, à 10h17, 31 personnes trouvaient la mort et des milliers d'autres étaient blessées dans l'explosion de l'usine chimique d'AZF. Airbus veut commercialiser un avion à hydrogène en 2035. C'est ce qu'annonce son président dans un entretien au journal Le Parisien. Guillaume Faurier rappelle qu'il s'agit là d'un axe stratégique prioritaire. L'ambition d'Airbus est d'être le premier constructeur à mettre en service un tel appareil d'ici 15 ans. Un rendez-vous à noter sur vos agendas, celui de 2 concerts de soutien au festival Jazz en Comminges, dont la 18e édition n'a pu avoir lieu. Le parc des expositions de Saint-Gaudens accueille donc samedi prochain 2 belles affiches. À 21h, le duo Jackie Terrasson et Stéphane Belmondo, suivi à 22h50 de la chanteuse Lisa Simone. Et puis en Coupe d'Europe de rugby, Toulouse s'est brillamment qualifiée hier pour les demi-finales en battant les Irlandais de l'Ulster 36 à 8, 5 essais à la clé. Les Toulousains se déplaceront en Angleterre le week-end prochain pour y affronter Exeter.
Merci Luc, on vous retrouve dans une demi-heure pour l'essentiel de l'actualité en Occitanie.
La météo.
Pour cet après-midi, attention, si vous devez sortir, il y aura des risques d'orages un peu partout dans l'ex-région Midi-Pyrénées avec de moyenne 21 degrés demain matin. À part dans le Lot et l'Aveyron, il y aura quelques averses. Pour les autres départements, vous aurez des éclaircies. Le mercure montera jusqu'à 17 degrés dans le Gers, près du Stadium à Toulouse et à Montauban, 16 près du lac de Catus et 14 pour Rodez. L'après-midi, des coups de tonnerre du côté de la cathédrale de Cahors où il fera 20 degrés. Quelques gouttes pour le Tarn-et-Garonne, partout ailleurs, des rayons de soleil avec du 21 pour Auch, Saint-Gaudens et en Haute-Pyrénée. Un petit conseil pour ce début de semaine, gardez votre parapluie à portée de main.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
C'est une initiative des archives départementales de Haute-Garonne, inviter les habitants à prendre des clichés de leur département. Objectif, la constitution d'un fonds patrimonial photographique. Bonjour Anne Goulet.
Bonjour.
Vous êtes directrice des archives départementales. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, c'est la 3e édition de cette opération. Elle s'intitule « Refotographions la Haute-Garonne ». Vous allez nous en expliquer le principe. Je crois qu'il ne s'agit pas de prendre n'importe quelle photo, hein, c'est bien ça,
hein? Non, pas du tout. Effectivement, nous conservons aux archives départementales le fonds des éditeurs de cartes postales La Bouche, qui a photographié un très large sud-ouest et entre autres la Haute-Garonne. Et nous avons donc des documents photographiques sur 380 communes du département à peu près. Alors cette année, pour la troisième et dernière campagne, nous avons sélectionné 158 communes sur tout le département, du nord au sud, au centre, etc. 158 communes, et pour chacune de ces communes, nous avons sélectionné une à trois cartes postales anciennes, qui datent donc de la fin du 19e ou du début du 20e siècle, une à trois cartes postales anciennes, en demandant aux habitants de Haute-Garonne d'aller prendre le même cliché, le même angle de vue, à 100 ans de distance. Donc comme cela, nous pourrons voir les différences, ou bien au contraire, les permanences d'un même lieu.
Ah, c'est sympa, c'est une espèce d'avant-après. Hein.
Voilà, c'est une espèce d'avant-après, c'est une manière aussi pour nous de constituer de façon participative avec les habitants du département, constituer de manière participative un corpus photographique contemporain, puisque nous avons de nombreux fonds photos, notamment ce fameux fond La Bouche, de nombreux fonds photos qui nous renseignent sur le département, il y a plus de 100 ans. Mais finalement, il ne faut pas oublier aussi, pour nous, archives départementales, de collecter le contemporain.
Bien sûr.
Pour voir justement ce qui a pu changer ou pas.
Et oui. Et alors, pourquoi vous faites ça de façon participative? Après tout, un photographe aurait pu s'en charger. C'est quoi l'idée?
L'idée, c'était justement, ça fait partie aussi de la politique du conseil départemental, de faire appel aux habitants de la Haute-Garonne, de recueillir leur avis. Donc, nous avons considéré que ça pouvait être aussi, pour les habitants, peut-être une occasion de redécouvrir leur environnement, d'avoir un nouveau regard sur cet environnement, d'aiguiser leur sens critique et de leur faire prendre conscience de l'histoire qui les entoure et qui marque leur paysage.
Alors c'est la troisième édition, nous avez-vous dit, de cette initiative. 158 communes sont concernées un peu partout. Hein. Ça veut dire qu'il faut se rendre sur votre site pour voir si ma commune est concernée et où je peux aller pour faire mon cliché, c'est ça?
Voilà, exactement. Il suffit de taper « Refotographions la Haute-Garonne » dans le moteur de recherche. Et on va avoir soit une carte interactive, soit une liste de communes. Mm-hmm. Alors c'est difficile de vous donner des.
On va pas toutes les donner, non.
Non, on ne va pas toutes les citer ici. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné là où les communes, parce qu'après tout, les passionnés peuvent aller prendre des photos dans les 158 communes. Et une fois qu'on a sélectionné sa commune, on va sur place. Et ensuite, il faudra rentrer son image numérique, n'est-ce pas, sur le site internet à l'adresse Refotographions la Haute-Garonne. Voilà.
Et un même lieu, une même carte postale du fond La Bouche, vous l'avez dit, peut être pris en photo plusieurs fois par différentes personnes. Vous garderez la meilleure probablement, c'est ça?
Oui, bien sûr, ça peut être pris en photo par plusieurs personnes. On gardera la meilleure ou bien on les gardera toutes. Très franchement, dirais qu'on verra selon les cas. C'est-à-dire que notre idée n'est pas tellement de faire un concours de photos, mais c'est aussi vraiment de garder trace. Et finalement, deux personnes différentes peuvent photographier un lieu de manière différente, à des heures différentes. On verra les voitures passer, ou au contraire, le lieu sera vide de voitures si la photo est prise un dimanche matin, à 5 heures, par exemple, en plein été. Mais aussi, on a vu justement des photographes qui se sont amusés, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont fait des espèces de photomontage. Vous voyez, dans la photographie contemporaine, ils auront inclus les petits personnages qu'on voyait sur la photographie ancienne. Donc, nous incitons aussi les photographes à laisser vraiment libre cours à leur imagination, même si on les oblige à rester dans un cadre relativement contraint, bien évidemment.
Et alors, pour les éditions précédentes, combien est-ce que vous avez eu de photos envoyées? Qu'est-ce que vous en avez fait? Je crois que des expositions ont lieu après, hein?
Voilà, c'est cela. Alors, nous avons collecté un peu plus de 1000 photographies en tout. Nous espérons donc que la campagne qui arrive sera tout aussi productive. Nous avons fait effectivement plusieurs expositions sur les différentes parties du département. Nous les faisons voyager. Par exemple, celle sur le Comminges a été présentée l'an dernier à Saint-Bertrand-de-Comminges. Par la suite, elle a été présentée à Aurignac, au musée d'Aurignac. Jusqu'à ce week-end d'ailleurs, jusqu'au jour du patrimoine. Voilà. Et c'est une manière de rendre hommage en quelque sorte à tous ces photographes amateurs qui ont bien voulu nous accompagner dans cette aventure.
Eh bien, belle aventure en tout cas. Merci beaucoup Anne Goulet, directrice des archives départementales, d'être venue nous la présenter. Ça s'appelle Refotographions la Haute-Garonne. Donc on l'a compris, amateur de photographie, à vos clichés. Toutes les informations sont à retrouver sur en tapant Refotographions la Haute-Garonne. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Église Actualité arrive dans 3 minutes. Nous, on continue en chanson avec Matt Pokora, Merci d'être, une chanson écrite pour toutes les mamans. Bon appétit sur votre radio chrétienne. Il est 12h11, tout pile là.
Sud-américaine, au fin fond des favelas, et qui portent à 15 ans à peine leurs enfants à bout de bras. Aux femmes africaines, dont rien ne gâche la joie de planter dans la terre une graine. Jamais ne poussera. Oh, elles sont en elles comme un don qui force le respect, qui force le pardon. Révoltes indiennes sur les traces d'Indira. Bien plus loin les mots vous emmènent que toutes les armes de combat. Pas pour toi, pourtant tu demeures la gardienne de tes fils qui font la loi. Comme tellement d'autres terriennes à qui on laisse pas le choix et dont la parole reste vaine. Si je peux donner ma voix, elles font des preuves d'abandon qui forcent le respect, qui forcent le pardon.
Église Actualité, Emmanuel Pella.
Aujourd'hui, pour rappel, à Toulouse, le diocèse propose un temps de prière à l'occasion du 170e anniversaire de l'ordination du vénérable Père Marie-Antoine. Au programme temps de prière et de rencontres, Rendez-vous dès 13h aujourd'hui à l'église Saint-Cernin à Toulouse. Pour tout renseignement, un site internet www.marieantoine.com. Demain, à Toulouse, les Saints François et Saints E2SAIM, un groupe créé en réponse à la publication de l'encyclique Laudato Si, propose un temps pour mieux comprendre et vivre ce qu'est l'écologie. Au programme, topo, ateliers et temps festifs. Rendez-vous dès 20h, demain à 20h, salle Saint-Cyril, 23 rue Valade, à Toulouse. Demain également, à Toulouse également, le diocèse propose la messe de rentrée des jeunes pros qui sera suivie du forum des groupes jeunes pros, soit pour les 18-35 ans. Rendez-vous demain à 20h à la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse. Ce mercredi 23 septembre à Toulouse, le groupe de prière Padre Pio, en lien avec le sanctuaire de San Giovanni Rotondo, lieu en Italie où est enterré ce saint, se réunit pour la récitation du rosaire. Rendez-vous ce mercredi 23 septembre à 16h à la chapelle Saint-Jean-Baptiste à Toulouse. Ce jeudi 24 septembre à Lourdes, les Veilleurs de Bigorre organisent la conférence de Michel Chiron sur le thème « Spiritisme, possession et miséricorde ». Rendez-vous ce jeudi 24 septembre à 20h30 à la salle Saint-Pierre à Lourdes. Enfin, ce vendredi 25 septembre à Sylvanès, l'association Millefeuille et l'abbaye de Sylvanès proposent l'événement « Forêt en fête ». Un carrefour d'échanges scientifiques, ludiques et artistiques sur le thème de l'environnement forestier. Un événement qui est destiné aux plus petits jusqu'aux plus grands, aux curieux comme aux spécialistes, expliquent les organisateurs. Pour tout renseignement, un site internet www.sylvanes.com.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
L'essentiel de l'actualité, c'est avec notre journaliste de Lourdes, Luc Vidal-Giraud.
Bonjour à tous. De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur ce matin dans le cadre de la crise sanitaire. La fermeture des écoles maternelles et primaires en cas de cas positif au coronavirus ne sera plus systématique. En dessous de 3 cas avérés, les élèves ou enseignants masqués qui ont été en contact avec un cas avéré ne seront plus tenus de s'isoler. Ces mesures qui seront mises en place dès demain font suite à un avis du Haut Conseil pour la Santé publique qui affirme que les enfants sont peu à risque de formes graves et peu actifs dans la transmission du virus. En France, 89 établissements, dont 76 écoles, sont actuellement fermés selon les derniers chiffres du ministère. Dans le Lot, la préfecture, en étroite collaboration avec l'Agence régionale de santé et les chefs d'établissement, annonce que 3 élèves internes et un surveillant de l'internat du lycée Monerville de Cahors ainsi qu'un élève externe ont été testés positifs. En conséquence et par mesure de précaution, le préfet a décidé la suspension temporaire de l'accueil de l'internat pour 7 jours. Une désinfection est engagée aujourd'hui même dans les bâtiments de l'internat. La continuité pédagogique pour les élèves internes sera assurée par l'équipe enseignante grâce à l'espace numérique de travail de l'établissement. Et puis, autre serrage de vis à Toulouse, le préfet de Haute-Garonne a pris de nouvelles mesures. Il a été décidé de prolonger l'obligation du port du masque d'un mois, soit jusqu'au 21 octobre. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits dans les parcs et jardins. Les soirées dansantes sont également interdites dans les restaurants et les bars, et les clients sont priés de consommer assis. De plus, les activités musicales dites audibles depuis la voie publique devront cesser entre midi et 7h du matin tous les jours. Le but est de réduire les déplacements et les grandes concentrations de personnes. Et puis toujours à propos de cette crise sanitaire, le directeur général du CHU de Toulouse a indiqué dans un point de presse que pour conjuguer l'activité de soins liée au Covid-19 et l'activité classique de l'hôpital, eh bien la structure hospitalière a recruté 500 personnes pour combler les postes vacants et ce recrutement se poursuit. Pour le seul mois de septembre, le CHU de Toulouse devrait embaucher 300 personnes, c'est 2 fois plus que l'année dernière. Il se confirme que cet été 2020 a bien profité à la montagne. Malgré un contexte sanitaire difficile et une baisse très importante du tourisme étranger, la fréquentation des Pyrénées a progressé de près de 4 points par rapport à l'été dernier. Les visiteurs ont, semble-t-il, privilégié les estives aérées aux plages surfréquentées. Autre enseignement de cette période, le camping-car a connu un véritable boom. Les réservations ont en effet progressé de 65% en Occitanie par rapport à l'année dernière. Le député béarnais Jean Lassalle fait encore parler de lui, on le sait, bon chanteur, bon marcheur également, et le voilà maintenant tête en l'air. Pressé d'aller encourager son fils lors d'un match de rugby hier dimanche, le député légèrement en retard s'est tout simplement garé sur le passage à niveau de la ligne ferroviaire Paube-Douce. Conséquence, eh bien, un train a dû s'immobiliser sur la voie. Identifié grâce à la plaque d'immatriculation de son véhicule, Jean Lassalle s'est vu invité par les gendarmes à déplacer sa voiture. « Je me suis platement excusé auprès des passagers. Tout le monde a été très gentil », a déclaré Jean Lassalle. Les gendarmes l'ont été aussi puisque le député n'a pas reçu d'amende. Cela aurait-il été le cas si l'étourdi avait été un vulgaire quittame ? Poser la question, c'est peut-être y répondre. Toulouse commémore aujourd'hui le 19e anniversaire de la pire catastrophe industrielle de son histoire. Le 21 septembre 2001, à 10h17 précise, 31 personnes trouvaient la mort et des milliers d'autres étaient blessés dans l'explosion de l'usine AZF. Au final, on dénombrait 80 000 Toulousains sinistrés. Depuis cette date, 3 procès ont eu lieu, 2 à Toulouse et le dernier à Paris. La Cour de cassation a confirmé en fin d'année dernière, fin 2019, les condamnations pour homicide involontaire des anciens dirigeants de l'usine. 15 mois de prison avec sursis pour l'ancien directeur du site et une amende pour la société Grande Paroisse, filiale de Total et propriétaire de l'usine. L'immense friche industrielle d'AZF est-elle devenue une vaste centrale solaire la plus importante d'Europe ? Airbus veut commercialiser un avion à hydrogène en 2035. C'est ce qu'annonce son président dans un entretien au journal Le Parisien. Guillaume Faury rappelle qu'il s'agit là d'un axe stratégique prioritaire. Le choix et la maturation des technologies prendront 5 ans et il faudrait toujours, selon M. Faury, 2 années pour déterminer une liste de fournisseurs et de sites industriels. Il estime que la mise en programme est prévue aux environs de 2028. Ce calendrier correspond à l'objectif d'un avion neutre en carbone lancé en juin dernier par le gouvernement français qui a prévu d'y consacrer 1,5 milliard d'euros d'ici à 2022 dans le cadre de son plan de soutien au secteur aéronautique. L'avionneur européen travaille sur 3 concepts. Le premier est celui d'un avion de configuration classique pouvant aller jusqu'à 200 places avec un rayon d'action de plus de 3500 km. Le deuxième concept est celui d'un avion à hélice pouvant embarquer environ 100 passagers mais pour des trajets plus courts. Le troisième concept repose quant à lui sur le principe d'une aile volante d'environ 200 places. L'ambition d'Airbus est d'être le premier constructeur à mettre en service un tel appareil d'ici 15 ans. Optimisme relatif pour le directeur de la Banque de France en Ariège. Il fait état d'une bonne résistance des entreprises du département malgré les dernières mauvaises nouvelles annoncées sur le front de l'emploi et notamment les 50 salariés menacés chez MKAD. Selon la BDF, les entreprises ariégeoises n'ont pour l'instant pas de soucis pour payer leurs différentes traites. Le nombre d'incidents de paiement pour incapacité de payer recensé en août par rapport aux 12 derniers mois a même reculé de près de 30%. Le directeur de la Banque de France en profite pour lancer un appel. N'attendez pas d'être vraiment dans le rouge pour demander des aides auxquelles vous avez droit. Un rendez-vous à noter sur vos agendas, celui de 2 concerts de soutien au festival Jazz en Comminges, dont la 18e édition n'a pu avoir lieu. Le parc des expositions accueille samedi prochain 2 belles affiches. À 21h, le duo Jackie Terrasson et Stéphane Belmondo, suivi à 22h50 de la chanteuse Lisa Simone. C'est samedi prochain au parc des expositions du Comminges. Et puis un petit mot de rugby sur la Coupe d'Europe pour signaler que Toulouse s'est brillamment qualifiée hier pour les demi-finales en battant les Irlandais de l'Ulster 36-8. 5 essais à la clé et une 12e qualification pour les demi pour les Toulousains. Ils se déplaceront en Angleterre le week-end prochain pour y affronter Exeter. Et puis, le quart de finale de la Challenge Cup, Leicester-Castres Olympique, a lui été annulé pour cause de Covid dans l'effectif castrais. Le CO est donc éliminé d'office de la Coupe d'Europe.
Merci Luc, on vous retrouve en fin d'heure pour le rappel des titres.
La météo.
Pour cet après-midi, attention, si vous devez sortir, il y aura des risques d'orage un peu partout dans l'ex-région Midi-Pyrénées avec de moyenne 21 degrés demain matin. À part dans le Lot et l'Aveyron, il y aura quelques averses. Pour les autres départements, vous aurez des éclaircies. Le mercure montera jusqu'à 17 degrés dans le Gers, près du Stadium à Toulouse et à Montauban, 16 près du lac de Catus et 14 pour Rodez. L'après-midi, des coups de tonnerre du côté de la cathédrale de Cahors où il fera 20 degrés. Quelques gouttes pour le Tarn-et-Garonne, partout ailleurs, des rayons de soleil avec du 21 pour Auch, Saint-Gaudens et en Haute-Pyrénées. Un petit conseil pour ce début de semaine, gardez votre parapluie à portée de main. C'est l'heure de faire le tour des diocèses et nous partons vers la nouvelle fréquence de votre radio où vous pouvez nous écouter là-bas sur le 103.9.
Eh bien, attachez vos ceintures, nous partons dans l'Aveyron, dans le diocèse de Rodez. Retrouvez Pascal Fournier, il est délégué épiscopal à l'information chargé de la communication. Bonjour Pascal.
Bonjour Isabelle, atterrissage réussi à Rodez.
Atterrissage réussi, on en profite. Et là, c'est plus sérieux pour embrasser évidemment tous les Aveyronnais qui sont touchés. On sait que votre département est durement touché par l'épidémie. On vous accorde à tous évidemment tout notre soutien. Pascal, alors, quels sont les événements à noter sur nos tablettes pour les 15 jours à venir ?
Je vous parlerai de deux rendez-vous, Isabelle. D'abord, le dimanche 27 septembre. Vous le savez, et nos auditeurs le savent aussi, le 27 septembre, c'est la 106e journée mondiale du migrant et du réfugié. Ça, c'est partout dans le monde. Mais ici, ouais, dans l'Aveyron, cela coïncide avec un pèlerinage à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, dans notre Lisieux aveyronnais. J'ai parlé du petit sanctuaire de Saint-Igeste. Ça se situe entre Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve-d'Aveyron.
Alors, qu'est-ce qui va s'y passer ?
Une messe le matin, un repas partagé dans le respect des gestes barrières, bien évidemment, prière de l'après-midi, et puis possibilité de confession, bien évidemment. Cette année, ce pèlerinage est présidé par Mgr Georges Pontier, archevêque émérite de Marseille et ancien président de la Conférence des évêques de France, Mgr Pontier, qui est retiré dans notre région, donc il nous fait le plaisir de venir présider ce pèlerinage dimanche 27 septembre à Saint-Igeste.
Dans le petit sanctuaire de Lisieux, dans votre petit Lisieux.
Tout à fait. Notre petit Lisieux, il est habité et il est animé depuis quelques années par une communauté de frères des Sacré-Cœurs de Jésus, une communauté qui avait été fondée par un prêtre aveyronnais en Inde au début du XXe siècle. Voilà. Et ce pèlerinage, bien évidemment, il a lieu chaque année et son succès, on le doit aussi à l'implication de tous les bénévoles de la paroisse qui préparent le sanctuaire, qui sont au service des pèlerins. Donc il faudrait remercier tous les bénévoles de la paroisse et à travers eux, toutes les personnes qui, d'une manière beaucoup plus générale, s'investissent pour la vie de leur église.
Eh bien bravo, on s'associe à ces remerciements. Autre événement à noter, Pascal Fournier, en Aveyron.
Vivre aujourd'hui notre mission de baptiser. Je vous parlais de missionnaires en Inde. Voilà, vivre aujourd'hui notre mission de baptiser, c'est une conférence qui sera donnée par Mgr Fonlu. Ça se passera mardi 29 septembre à 18h30 à la maison diocésaine Saint-Pierre à Rodez. Donc cette conférence, elle est diffusée en visioconférence dans deux autres lieux, le couvent de Malais à Saint-Côme-d'Olt dans la vallée du Lot et à Millau. Donc j'invite nos auditeurs à se rendre soit à la maison Saint-Pierre, soit à Saint-Côme, soit à Millau pour assister à cette conférence, donc mardi 29 septembre à 18h30. Et Mgr Fonlu donnera la même conférence jeudi 1er octobre à 20h30 à Villefranche-de-Rouergue.
Vivre aujourd'hui notre mission de baptiser. C'est bien noté, Pascal Fournier. Merci beaucoup pour ces événements qui sont à retrouver sur notre site, sur le vôtre et puis évidemment en podcast. Merci à vous. À dans 15 jours, Pascal.
Bonne journée. Au revoir, Isabelle.
Dans 4 minutes, vous aurez votre chronique santé. Nous allons nous intéresser aux tests de la Covid en attendant de la musique avec Zaz sur votre radio chrétienne.
Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson. Sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison. Dans la chambre, dans le salon, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution, je fais le tour de la question. J'avance à
consommation. Oui, mon compte est bon, mon compte est bon. Tu vois, je suis pas né. Je suis le roi de l'illusion. Au fond, on me pardonne. Je suis le roi des cons. C'est moi, le maître du feu, le maître du jeu, le maître du monde. Et vois ce que j'en ai.
Présence aux portes du Tarn, 97.9. La chronique santé avec Gaëtan Casanova.
Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler des tests qui permettent de mettre en évidence le coronavirus et donc de réaliser le diagnostic de l'infection. Ce sujet, il est essentiel. Il est essentiel parce que c'est un sujet de santé publique majeur et que c'est un des pivots de la lutte contre l'infection. Mais c'est aussi un sujet économique majeur parce qu'au-delà des performances des tests, il y a évidemment le coût qu'ils représentent et donc les risques qu'il fait encourir à notre assurance maladie. Et lorsque j'utilise le terme de risque, croyez-moi, il n'est pas usurpé. Le coût par semaine des tests diagnostiques PCR pour le coronavirus est d'environ 60 millions d'euros. On arrive donc à environ 250 millions d'euros par mois. Aujourd'hui, pour simplifier, il existe deux tests différents, la RT-PCR et la sérologie. La sérologie, tout d'abord, consiste à détecter les anticorps produits par l'organisme d'une personne qui a été en contact avec le virus. Les anticorps, ce sont des petites molécules qui permettent à nos cellules immunitaires de reconnaître des cibles à détruire, notamment des virus. Notre organisme, en moyenne, met entre 3 semaines et 1 mois à les produire. Ces anticorps permettent, lorsque l'on rencontre à nouveau l'agent pathogène, de lutter très rapidement et très efficacement contre lui, et parfois nous donner ce que nous appelons une immunité. C'est le principe des vaccins, par exemple. Lorsqu'on fait une sérologie pour le coronavirus, si la sérologie est positive, alors cela veut simplement dire que l'on a rencontré le virus il y a au moins 3 semaines et que notre organisme a été capable de fabriquer des défenses contre lui. Si ces anticorps persistent dans l'organisme et que le virus ne mute pas, alors il y a bon espoir que l'immunité persiste. Dans le cas contraire, malheureusement, l'immunité n'est pas acquise, il peut y avoir réinfection. L'autre test, c'est la PCR. La PCR consiste à détecter directement le matériel génétique du virus sur un prélèvement. C'est donc tout à fait différent de la sérologie. Plus le prélèvement était concentré en virus, plus il est facile de le détecter. C'est pour ça qu'on détecte plus facilement le virus chez les personnes symptomatiques que chez les personnes asymptomatiques. Ce test est coûteux et les délais pour rendre des résultats sont devenus beaucoup trop importants, parfois jusqu'à une semaine. Vous voyez bien qu'il n'y a quasiment aucun intérêt à rechercher la présence du virus pour n'avoir la réponse qu'une semaine plus tard. Pour simplifier les choses et réduire le coût, on a proposé d'utiliser la salive au lieu de prendre un prélèvement réalisé dans le nez à l'aide d'un écouvillon. La technique restant la même. Malheureusement, le test salivaire est moins performant et à réserver aux personnes symptomatiques uniquement. Le gouvernement, conscient des enjeux financiers et sanitaires, est donc en train de changer son fusil d'épaule et peut-être, comme cela est fait en Espagne et en Allemagne, réserver les tests uniquement sur des populations très ciblées. En attendant, la file d'attente et la facture s'allongent.
Très heureux d'être avec vous pendant cette pause repas dans l'Occitanie. Et si vous loupez une émission comme l'interview de ce matin ou Église Actualité et j'en passe, vous pouvez retrouver toutes vos émissions sur le www.radioprésence.com ou sur votre téléphone portable. Vous pouvez aussi profiter du direct là où bon vous semble. Nous serons toujours là avec vous. Dans moins de 5 minutes, vous aurez votre évangile comme chaque jour. En attendant, nous allons nous balader avec Laurent Voulzy. Une très belle chanson, oui, Jeanne. Sur votre radio chrétienne. Il est 12h35.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire, et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image, perdue dans les âges, et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime. Chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, si la vie est un rêve, que l'amour m'enlève. Jeanne, au bois dormant, vous prendriez ma vie, je prendrais votre main. Nous irions dans un lit comme des amants. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie.
Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
L'Évangile.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table, à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire de collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Je veux la miséricorde, non les sacrifices. Ce n'est pas le sacrifice qui définit Dieu, mais sa miséricorde, son cœur. Jésus n'est pas venu parmi nous pour sanctifier les sacrifices, pour les sauver. Non, il est venu sauver l'homme. C'est toute l'histoire du salut. Dieu qui marche avec nous, pour nous, jamais contre nous. Saint Paul, dans la première lecture, est en prison à cause de l'Évangile. Il est si serein. Et on découvre dans ses paroles la manière dont il voit l'histoire du salut, l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qu'il dit ? Il y a un seul corps, un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu est Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. C'est Dieu le maître de l'histoire. Il nous cherche là où nous vivons chacun. Et il nous appelle. Il nous appellera toujours. On vient d'entendre dans le texte de l'Évangile la vocation de Matthieu. Ce juif, collecteur d'impôts, méprisé par ses concitoyens, considéré un pécheur public, parce qu'il ramassait l'argent, l'impôt, pour les occupants romains. Il était considéré traître de son pays. Le toucher, entrer dans sa maison, c'était devenir impur. C'est la manière dont ces personnes étaient vues par les juifs pieux. Mais Jésus a un autre regard. Avec quelle simplicité Matthieu, dans l'évangile que nous venons de lire, nous a dit ce qu'il a vécu. Un jour, Jésus passe devant son bureau de percepteur. Il le regarde et lui dit simplement « Suis-moi ». Qu'est-ce qu'il a trouvé dans ce regard du Christ ? Un regard plein d'amour, un regard compatissant, un regard capable de le faire sortir de sa situation, du mépris dans lequel il vivait. Et il ose de quitter tout et suivre Jésus. Il a découvert dans son cœur la miséricorde du Christ. J'ai été frappé, et ça m'a resté dans la mémoire, le moment de la vocation de Matthieu dans le film « Jésus de Nazareth » de Franco Zeffirelli. Jésus est dans la maison, dans la cour de la maison Saint-Pierre. Et tout d'un coup, Matthieu vient, entre dans la cour. Simon-Pierre, sur le coup d'un nerf, dit, « Va-t'en d'ici, tu n'as pas le droit de rentrer dans ma maison. » Alors Jésus regarde vers Matthieu et lui dit, « Je ne sais pas quel est ton nom, mais je sais quel métier tu fais. » Probablement le percepteur avait un vêtement spécial, spécifique. « Je vois que tu n'es pas bienvenu dans cette maison. Tu habites loin ?»« Non, à quelques maisons d'ici. Ce soir, je veux dîner chez toi. » Et il est parti. Le soir venu, Jésus va accomplir sa promesse. Les apôtres autour de lui essaient de le convaincre. Ce n'est pas possible. Personne n'écoutera pas ta parole si tu fais ça. Tu te compromets. Mais Jésus leur a dit, je suis venu parce que Dieu est miséricorde. Et il est rentré dans la maison de Matthieu. Les apôtres sont restés dehors. Personne n'a osé entrer. En rentrant dans la maison de Matthieu, Jésus salue les gens avec le salut ordinaire, shalom, et puis il rentre en dialogue avec eux. À un moment donné, Jésus dit à Matthieu qu'il veut dire une parabole, une histoire. Et il va raconter la parabole du fils prodigue. On la connaît si bien. Pierre, qui à l'entrée de la maison écoutait, et Matthieu, qui était assis sur son divan, écoute la parabole. Il se reconnaît en ses deux fils. Pierre dans le fils aîné, Matthieu dans le cadet. Il ne peut pas vaincre la parole de Jésus. Alors, Pierre ose d'entrer dans la maison de Matthieu, vient devant Jésus et lui dit, « Maître, je suis un stupide, pardonne-moi. » Alors Jésus regarde vers Matthieu. Pierre a compris. Il avance lentement vers Matthieu et lentement il met sa main sur l'épaule de Matthieu. Matthieu ne pouvait croire parce que quelques heures avant, Pierre était emporté contre lui et maintenant, sa main sur son épaule. À son tour, Matthieu met sa main sur la main de Pierre. Ils se sont réconciliés. Dieu est venu parmi nous parce qu'il est amour et que dans cet amour, il ne fait pas de différence. Il ne juge pas. Il donne la chance du salut à toute personne sans faire de distinction. Il aime toujours. Il ne renonce à personne parce qu'il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Il veut nous rendre, comme dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, saints et immaculés devant lui, par sa grâce. Parce que ce n'est pas nous qui nous sauvons par nos propres forces, mais c'est lui qui sauve, qui relève, qui pardonne, qui redonne l'espérance et la vie du Père, la vie éternelle. Ici, dans les apparitions, la Vierge Marie nous présente le même message par Bernadette. Appel à la conversion, prière pour la conversion des pécheurs. Marie avance comme Jésus, parce qu'elle a appris à voir le cœur de son Fils, qui est miséricorde. Si Notre-Dame ici, dans les apparitions, nous appelle à la conversion, elle nous donne aussi les moyens d'y arriver. Voilà pourquoi, à la 9e apparition, Marie va révéler à Bernadette la source. La source, c'est l'image du Christ. C'est lui qui nous purifie. Chez lui, Marie nous conduit, parce qu'elle est notre mère. Elle veut qu'on soit semblable à lui. La Vierge Marie, dans les apparitions, nous appelle à la procession. Venir en pèlerinage, c'est un appel pressant. On doit essayer de répondre à cet appel. Et le sanctuaire nous invite avec insistance de reprendre le pèlerinage. Marie ne nous trompe pas. Elle veille sur nous, même en ce temps de pandémie. On ne doit pas se laisser vaincre par la peur. Parce que Dieu est notre Dieu. Il est miséricorde, il est Père. Je ne veux pas le sacrifice, mais la miséricorde. Dans cette histoire du salut, nous aussi nous sommes intégrés aujourd'hui et on le sera toujours. Dieu nous accueille. Il veut nous pardonner. N'ayons pas peur de nous rapprocher de lui, notamment dans le sacrement de la confession. Là, on est seul face à lui. Là, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper soi-même. On ne peut pas le tromper. On est nous, dans notre vérité, en ce qu'il y a dans notre cœur. Il veut clarifier tout, éclairer tout, enlever tout mal, nous rendre la joie et le bonheur que nous cherchons. Et ce bonheur réside dans le cœur. Et quand on pense que la confession, c'est le premier don de Jésus ressuscité, il est vivant à nous dans ce sacrement. Parce que dans ce sacrement, il vint dans chacun d'entre nous le péché et ses conséquences, y compris la mort. Je ne veux pas la mort du pécheur, dit le Seigneur dans le prophète Ézéchiel, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Le pape François disait que Jésus est le visage de la miséricorde du Père. Si on regarde vers Jésus, on voit Dieu le Père, son amour. Je veux finir avec ces paroles de pape François. Comprendre la miséricorde du Seigneur est un mystère. Le mystère le plus grand, le plus beau, c'est le cœur de Dieu. Si tu veux arriver au cœur de Dieu, prends le chemin de la miséricorde et laisse-toi traiter avec miséricorde.
Dans moins de 3 minutes, le rappel des titres en attendant une reprise par les Kids United de Patrick Bruel.
On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petite, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Il n'y a rien dit quand il s'est fait la paix. Maman m'a dit, t'es trop petite pour comprendre.
Et j'ai grandi avec une place à prendre.
Qui a le droit, qui a le droit, qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment. Sa vie à
à qui l'on ment. On m'avait dit que les hommes sont tous pareils.
Il y a plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul soleil.
Oui, mais le soleil, il brille ou bien il brûle.
Tu meurs de soif ou bien tu bois des bulles.
À toi aussi, je suis sûre qu'on t'en a dit. De belles histoires, tu parles que des conneries.
Alors maintenant, on se retrouve sur la route.
Avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes.
Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands?
On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la paix et le beau temps
pour des enfants à qui l'on ment.
Radio Présence à Toulouse 97.9.
Le rappel des titres, c'est avec Luc Vidal-Giraud.
De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur ce matin dans le cadre de la crise sanitaire. La fermeture des écoles maternelles et primaires en cas de cas positif au coronavirus ne sera plus systématique. En dessous de 3 cas avérés, les élèves ou enseignants masqués qui ont été en contact avec un cas avéré ne seront plus tenus de s'isoler. Dans le Lot, la préfecture, en étroite collaboration avec l'ARS et les chefs d'établissement, annonce que 3 élèves internes et un surveillant de l'internat du lycée Monerville de Cahors ainsi qu'un élève externe ont été testés positifs. En conséquence et par mesure de précaution, le préfet a décidé la suspension temporaire de l'accueil de l'internat pour 7 jours. À Toulouse, le préfet de Haute-Garonne a pris de nouvelles mesures. Elle a décidé de prolonger l'obligation du port du masque d'un mois, soit jusqu'au 21 octobre. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits dans les parcs et jardins et les soirées dansantes sont également interdites dans les restaurants et les bars et les clients sont priés de consommer assis. Il se confirme que cet été 2020 a bien profité à la montagne. Malgré un contexte sanitaire difficile et une baisse très importante du tourisme étranger, la fréquentation des Pyrénées a progressé de près de 4 points par rapport à l'été dernier. Les visiteurs ont, semble-t-il, privilégié les estives aérées aux plages surfréquentées. Toulouse commémore aujourd'hui le 19e anniversaire de la pire catastrophe industrielle de son histoire. Le 21 septembre 2001, à 10h17, 31 personnes trouvaient la mort et des milliers d'autres étaient blessées dans l'explosion de l'usine chimique d'AZF. Airbus veut commercialiser un avion à hydrogène en 2035. C'est ce qu'annonce son président dans un entretien au journal Le Parisien. Guillaume Faury rappelle qu'il s'agit là d'un axe stratégique prioritaire. L'ambition d'Airbus est d'être le premier constructeur à mettre en service un tel appareil d'ici 15 ans. Un rendez-vous à noter sur vos agendas, celui de 2 concerts de soutien au festival Jazz en Comminges, dont la 18e édition n'a pu avoir lieu. Le parc des expositions de Saint-Gaudens accueille donc samedi prochain 2 belles affiches. À 21h, le duo Jackie Terrasson et Stéphane Belmondo, suivi à 22h50 de la chanteuse Lisa Simone. Et puis en Coupe d'Europe de rugby, Toulouse s'est brillamment qualifiée hier pour les demi-finales en battant les Irlandais de l'Ulster 36 à 8, 5 essais à la clé. Les Toulousains se déplaceront en Angleterre le week-end prochain pour y affronter Exeter.
Un rapide coup d'œil sur votre météo. Demain matin, vous aurez des éclaircies, 17 dans le Gers près de Toulouse et Montauban, 16 à Catus, 14 pour Rodez. L'après-midi, des coups de tonnerre à Cahors, 20 degrés, des averses dans le Tarn-et-Garonne, partout ailleurs des rayons de soleil, 21 pour Auch, Saint-Gaudens et en Haute-Pyrénées. Je vous laisse avec votre journal de Radio Vatican et moi je vous dis à demain midi.
Présence à Figeac 97.7.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
À la une de ce journal, le reconfinement de 850 000 madrilènes priés de rester chez eux à partir